Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Bon, gloire à Dieu. Je vais attendre que les enfants sortent. Ils sont-tu mignons, hein? Si, coco. La semaine dernière, on avait parlé de la peur. Puis on va reparler de ça aujourd'hui un peu. Hein? Puis on va parler un petit peu de... Qu'est-ce qu'on fait face à la peur? Comment est-ce qu'on... Parce que, comme on parlait la semaine passée, la peur, elle est réelle. La peur, elle est là. Elle va nous tenailler, la peur, puis il doit y avoir quelque chose qu'on peut faire face à la peur. Puis c'est là-dessus que je veux parler un petit peu, d'autant qu'il y a une nouvelle année qui commence. Une nouvelle année avec ses incertitudes, avec ses défis, avec ses beautés, avec ses surprises. Il va y avoir plein de belles choses en 2019, plein de choses probablement moins belles aussi. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois amène avec eux leur lot de difficultés, leur lot de problèmes, leur lot de choses qui sont les défis pour nous, on va se le dire. Encore hier soir, j'apprenais qu'un ami à moi avait été retrouvé mort dans son logement. Puis ça nous rappelle que la vie, elle est difficile, la vie. Elle est pas facile. 2019, on a hâte, on est fébrile à chaque fois qu'une année se termine. Mais en même temps, il y a plein de choses qui sont devant nous qu'il va falloir faire face. Puis alors qu'on fait face à 2019, alors qu'on fait face à tout ça, comment est-ce qu'on peut faire face des fois aux peurs qui nous tenaillent? La semaine passée, j'ai dit que j'avais parlé de Job, hein, comme quoi que ce qu'il avait peur, ce qu'il craignait, lui était arrivé. On avait parlé aussi dans le Deutéronome des frères qui ont fait fondre le cœur. Hein. On avait parlé de Deutéronome 1. Nos frères nous ont fait fondre le cœur en disant c'est un peuple plus grand et de plus grande taille que nous. Alors, ce qu'on se dit, les choses qu'on voit, les choses auxquelles on est confronté, vont parfois nous faire fondre le cœur, vont parfois nous faire réaliser que on est petit, on est impuissant devant ce qui se passe. Puis, on va devoir faire face à plein de choses. Mais comment est-ce qu'on fait? C'est là-dessus que je veux vraiment parler ce soir. Ce matin, hein, on est matin. Cette nuit, en tout cas, j'ai hâte d'être chez nous. Hein? Oui, il va être cette nuit, mais chez nous, oui, c'est ça. mais c'est quoi la peur? Mais la peur, c'est le dictionnaire va définir la peur comme une émotion pénible, une émotion assez violente qui naît de la prise de conscience d'un danger, d'une menace et qui va saisir une personne dans une situation précise. Donc, c'est une émotion qui est pénible, la peur. Fait que déjà, une émotion pénible, on cherche à éviter ça. Et d'ailleurs, plus on va chercher à éviter ce qui est pénible, plus ce qui est pénible va faire mal. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir eu à faire face à quelque chose de douloureux. Plus on se crispe devant quelque chose de douloureux, plus la douleur va être saisissante, plus elle va faire mal. Je me souviens, j'étais dans un hôpital en Estrie au centre universitaire de Sherbrooke. Julie était avec moi. On n'était pas mariés à l'époque, mais j'avais une vive migraine d'un coup. Et puis, la migraine était tellement forte que j'en avais perdu un petit peu l'équilibre. Et je m'étais rendu à l'hôpital. Et puis, les médecins pensaient que je faisais une hémorragie cérébrale. Alors, ils devaient me faire une ponction lombaire. Alors là, ils prennent une aiguille. Ils essaient de s'enligner en, où est-ce que la moelle épinière, en tout cas le système nerveux, vers la fin un peu. Là. Ils envoient une aiguille là pour tirer du liquide céphalo-rachidien qui se promène dans la gentille moelle épinière. Et puis, jusque-là, ça allait bien. Mais moi, j'étais toujours en douleur. Fait que de toute façon, j'avais mal. Mais là, ils ont vu dans mon dossier que j'étais allergique aux anesthésiens locaux. Vous savez comment on va chez le dentiste, hein? Puis qu'on se fait jouer hein, pour que ça empêche de faire mal. Fait que moi qui étais en douleur, vous savez, en plus, la douleur va souvent exacerber justement les peurs. Va exacerber tout ça parce que tu as déjà de la difficulté à contrôler tout ce que tu vis. Puis tu te crispes. Et là, il y a une jeune infirmière qui était là. Nerveuse. Je vous ai pensé un petit peu à la garde qui est allée chez Gilles faire la prise de sang, qui, elle, était pas jeune, par contre, mais... Et puis, fait qu'elle était un petit peu nerveuse, ça se voyait, puis elle allait devoir me faire une ponction lombaire sans anesthésie. Moi, j'avais jamais eu de ponction lombaire, mais je savais excessivement bien ce que c'était, pour l'avoir étudié. Ah, boy, non, ça me tente tellement pas, là, quand me passe une ponction lombaire. Puis là, heureusement, il y a une garde qui était assez âgée qui était là. Elle dit, non, tasse-toi, c'est moi qui le fais. J'étais très reconnaissant. Mais, fait que là, la garde me dit, mets-toi en boule. Puis elle dit, on va geler avec du gaz refroidissant. On va geler là, où est-ce qu'on va rentrer l'aiguille. Et ça va faire un peu moins mal. Mais je t'avertis, ça va faire très mal. Merci beaucoup. Fait que là, je me suis mis en boule. Et là, la garde est arrivée avec l'aiguille, que j'ai pas voulu regarder, mais que j'ai entrevue malheureusement. Et là, entre le temps que... C'est l'attente qui est pire, vous savez. L'attente, elle est effrayante. Elle est effrayante. J'étais en boule, j'avais mal à la tête, j'avais ma migraine épouvantable. Et là, je sentais que l'aiguille allait pénétrer dans ma moelle épinière. Ou en tout cas, pour me faire la ponction lombaire, j'étais pas anesthésié. Là, l'attente, elle est terrible. On dirait que ça a pris une éternité. Là, j'ai senti l'aiguille rentrer. Là, je savais que il y avait deux douleurs, là. Il y avait la douleur à la base de ma moelle, puis il y avait la douleur de ma migraine. Puis là, je me suis dit, Patrice, respire, puis relax. J'ai respiré. J'ai relaxé, j'ai relâché mes muscles. Ça s'est fait très bien. Et puis après ça, là, j'ai presque plus rien senti. Bon, c'est peut-être que j'ai perdu la carte, je ne sais pas. J'ai presque plus rien senti. Tout ça pour dire que devant ce qui nous terrifie, devant ce qui va nous faire mal, plus on va se crisper devant ça, plus ça va être douloureux, plus ça va être douloureux. Puis la peur... Les événements de notre vie qui nous terrassent, qui nous terrifient, ils vont être exacerbés. Alors, cette peur, cette émotion pénible qui est assez violente, qui va naître de la prise de conscience d'un danger. Ça veut dire que la peur, c'est toujours comment je perçois ce qui est autour de moi. C'est toujours comment je vois, comment je vais constater, comment je veux regarder ce qui m'entoure, ce qui m'environne. Fait que la peur, la chose en elle-même, c'est pas ça qui fait naître l'émotion pénible. C'est comment je conçois, comment je perçois la chose qui est en moi. C'est ça qui fait naître l'émotion pénible. Et c'est ça qui nous terrifie, c'est ce qui est devant nous. Et c'est demain un danger, et ça va saisir la personne dans une situation précise. Évidemment, si je suis aux autres Grimby, comme j'étais allé, je me souviens, puis c'était aux autres Grimby qu'on est allé, je lui dis, mais si on est allé dans un genre de tunnel, là, puis il y avait des tigres autour. Là. Hein? Parc Safari. Merci. Puis, imagine-toi que tu es dans un tunnel, puis qu'il y a un tigre qui arrive, qui saute, là, tu sais. puis t'es pas dans le tunnel en vert. Mais là, tu vois le même tigre dans le tunnel, puis il est là, là, il y a ça entre toi et lui, là. Tu vois ses grosses griffes. La situation est pas pareille. Fait que c'est toujours la personne. Pourtant, c'est le même animal, c'est la même personne. C'est la perception de la chose qui va t'élever. Comment je conçois ce qui est devant moi, qui va alimenter cette peur, ce sentiment, cette émotion qui est pénible. Tandis que la définition de le courage, parce que dans la nouvelle année, moi, ce que je sais pas, je veux parler de la peur, mais je veux me concentrer sur la définition de courage. Parce que là, en toute peur, ça prend du courage. Et là, c'est pas parce que tu es courageux que tu n'as pas de peur. Le courage, c'est faire face à ses peurs. Est-ce que ça veut dire que la peur disparaît? Non. Est-ce que ça veut dire que la menace disparaît? Non. Est-ce que ça veut dire que le danger disparaît? Non. Ça veut dire que tu vas faire face au danger. Tu vas faire face à la menace. Le risque est là. Mais le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est réaliser la peur, faire face à sa peur, confronter sa peur et aller en dépit de sa peur. C'est ça le courage. Les héros, les hommes courageux, c'est pas les gens qui sont sans peur. Ça, c'est les psychopathes, c'est les sociopathes. Ils n'ont pas d'émotion. Pour la majorité d'entre nous, les émotions qui sont en santé, une menace va nous faire peur. À part quand on a des phobies, que c'est une petite araignée qui a fait peur. Ou que t'es... Tu sais, je suis terrifié des requins à cause de ma désobéissance quand j'étais jeune. Mes parents m'avaient dit, tu ne regardes pas Jaws. Oui, papa. Il était parti. TV, Jaws est là. J'ai été terrifié. Plus jamais. J'ai la misère à mettre. Écoute, on est à Côte-Nord, je me baigne dans la mer. On était en Méditerranée. J'étais surpris en Méditerranée avec Mira et son père. On est allé se baigner, Julie aussi. Puis là, j'étais dans la mer, puis tout ce que je voyais, c'était des milliers de requins autour de moi. T'sais. Il n'y en avait pas un, t'sais. C'est dans mon imagination. Mais c'était quand je me flottais, j'essayais de relaxer Patrice. Relax, il n'y en a pas un foutu requin autour. Là, tu vois quelque chose flotter, tu te dis c'est ça joue des tours. T'sais. Fait que ton imagination, elle est pour quelque chose. Il n'y en avait pas de menace, mais j'en voyais quand même. Fait que le courage, c'est faire peur. Faire peur à ses peurs. Non, c'est pas ça. Faire face à ses peurs. Oui, c'est bon. Exactement. Le proverbe 28:1, ça dit, le méchant se sauve quand personne ne le poursuit, mais les justes sont pleins d'assurance comme un jeune lion. Le méchant se sauve quand personne, tu sais, les requins qui n'existent pas. Le méchant se sauve quand personne ne les poursuit, mais le, ça dit quoi? Mais le juste sont pleins d'assurance comme un jeune lion. Mais alors, pourquoi est-ce que le juste, pourquoi la différence? Pourquoi est-ce que ce serait méchant d'avoir peur? Non, c'est pas la question. La question, c'est que dans la conception chrétienne du monde, il y a une raison à ça. Il y a une raison pourquoi on lit des proverbes ici. C'est pourquoi est-ce que le chrétien peut-il être courageux? Mais premièrement, parce que dans la conception chrétienne du monde, on n'est pas tout seul. On n'est pas seul. On a Dieu avec nous. On a fêté quelques jours Noël. C'est qui avait été prophétisé la venue du Messie? C'est quoi son nom qui avait été prophétisé? Emmanuel, Dieu avec nous. Alors, si j'ai la pleine réalisation que Dieu est avec moi, mais là, je ne suis pas tout seul dans la situation. Et comme je vous ai dit, c'est pas la chose crainte qui va susciter la peur. C'est pas le lion qui va susciter la peur. C'est ma perception que c'est un lion puis qui est méchant. Puis qui résume. T'sais? C'est ça. C'est toujours ma perception. Alors, si j'ai la perception, si j'ai la foi, si j'ai la compréhension que je suis pas tout seul, puis tant aussi longtemps que Dieu a un plan pour moi sur terre, il n'y a rien qui peut être contre moi parce que Dieu est pour moi. La journée que Dieu est, si je marche avec Dieu, la journée où il va me ramener à la maison, c'est parce qu'il y avait une raison pour ça. ou s'il me fait passer par quelque chose, si je m'attends à lui, si je marche, puis si je suis confessé à date, si je suis en règle avec mon Dieu, ce qui va se produire, c'est qu'il y a un plan. Il y a un plan pour moi. Avec le courage de faire face à la situation, de faire face à la crainte. Pourquoi? Ben parce que je sais que je ne suis pas seul. Dans la conception moderne, dans la conception occidentale, on est tout seul. Même en gang, on est tout seul, c'est juste moi qui vais faire face à ça. Dans la conception plus orientale, dans la conception biblique, on n'est jamais seul. On est en clan, mais plus que ça, Dieu est avec nous. Emmanuel, Dieu est avec nous. Regardez ce que la Bible dit. Si vous voulez méditer un psaume qui est capotant, excusez-moi l'expression, il est rassurant, le psaume. C'est le psaume 27. Lisez tout le psaume 27. Si vous avez des craintes, si vous avez des peurs, méditez le psaume 27, lisez le psaume 27, mémorisez le psaume 27. C'est quelque chose que je veux faire cette année, je veux mémoriser le psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est la force de ma vie, de qui aurais-je frayeur? De qui? Quand les méchants, mes adversaires, mes ennemis se sont approchés de moi pour dévorer ma chair, ils ont bronché et sont tombés. Quand une armée camperait contre moi, mon cœur ne craindrait pas. Si la guerre s'élève contre moi, en ceci j'aurai confiance. J'ai demandé une chose à l'Éternel, je la rechercherai, c'est que j'habite dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour voir la beauté de l'Éternel, pour m'enquérir diligemment de lui dans son temple. Et au mauvais jour, il me mettra à couvert dans sa loge, il me tiendra caché dans le secret de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Et tout le psaume continue comme ça. Mais moi, ce que je trouve fantastique, c'est dès le premier verset du psaume, hein, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? » Alors, ou bien, et ça j'en ai déjà parlé dans le passé, mais c'est quelque chose que je réalise encore plus ce matin, quand il y a une situation qui est devant moi qui me terrifie, ou la situation et ce qui me terrifie, la perception de ce qui me terrifie va se placer entre moi et Dieu, pour que je ne vois que la situation, que je ne ressente que mes craintes, ou je vais voir Dieu qui est là, qui est mon bouclier, qui est mon rocher, entre la situation et moi. De qui aurais-je craint? De qui aurais-je frayeur? De qui aurais-je peur? Et vous savez, c'est très rassurant de savoir que notre Dieu, il n'y a rien qui ne puisse pas surmonter avec nous. Psaume 46, 1 à 3, « Dieu est notre refuge et notre force, un secours dans les détresses. » Écoutez bien ça. « Toujours facile à trouver. » Un secours dans la détresse, toujours facile à trouver. Ça veut dire que devant les situations, psaume 46, 1, 3, dans les situations, ma perception, et c'est pour ça le méchant, le juste, pourquoi les deux? C'est-tu méchant, si méchant que ça, d'avoir peur? Non. Mais par exemple, c'est que le méchant ne se tourne pas vers celui qui est facile à trouver dans le temps de la détresse. C'est ça la force du juste, puis la détresse du méchant. C'est que le méchant n'a pas recours à la force que l'Éternel veut lui donner. Dieu est facile à trouver. C'est pas difficile. C'est pas compliqué. Il n'est pas plus loin que les paroles de ma bouche. Appelle-moi, crie à l'aide. Combien de fois que dans les Écritures, on voit que si on crie à l'Éternel, il va nous sauver, il va nous délivrer. Dieu est notre refuge et notre force, un secours dans les détresses, toujours facile à trouver. C'est pourquoi nous ne craindrons pas quand la terre serait transportée de sa place que les montagnes seraient remuées et jetées au cœur des mers, quand les eaux mugiraient, qu'elles écumeraient, et que les montagnes seraient ébranlées à cause de son emportement. » Toujours facile à trouver. De qui aurais-je craint? Psaume 121, 1 à 4, vous le lirez. « J'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me vient mon secours? Mon secours vient d'auprès de l'Éternel. » Donc, pourquoi est-ce que le chrétien peut avoir confiance? Pourquoi il n'a pas besoin d'avoir peur? Mais parce que Dieu est avec lui. Hein? Je l'ai aussi mentionné, parce que Dieu il a un plan pour chacun d'entre nous. Et ça, on ne le réalise peut-être pas suffisamment. Dieu a une raison d'être pour notre vie ici. Sinon, la seconde qu'on se serait converti nous a ramené au ciel. S'il n'y a pas une raison d'être pour nous sur terre. Non, il y a un plan, il y a un but, il y a une raison d'être, il y a une vocation pour chacun d'entre nous. Il y a un but pour toi, il y a un but pour moi. Il y a un plan pour toi, un plan pour moi. Regardez bien ce que le livre des Actes va dire, c'est vraiment intéressant. Paul, dans Actes 23, il se fait ébranler, il se fait persécuter. Et regardez bien ce qui se passe. Un grand tumulte s'étant élevé, le dirigeant, craignant que Paul ne fût mis en pièces par eux, commanda à la troupe de descendre et de l'enlever du milieu d'eux et de le conduire dans la forteresse. Mais regardez bien ça. Et la nuit suivante, le Seigneur se tint près de lui. Emmanuel, Dieu avec moi, l'Éternel avec moi. Hein? Dieu lui-même, le Seigneur, s'est tenu auprès de Paul. Le premier point qu'on a vu tantôt. Dieu n'est pas éloigné, Dieu n'est pas loin. Dieu est proche de moi. Hein? Regardez bien ça. Il se tint près de lui et lui dit, « Aie bon courage, car comme tu as rendu témoignage des choses qui me regardent à Jérusalem, ainsi il faut que tu rendes témoignage à Rome. Mais prends courage, j'ai un plan pour toi. C'est pas ici que tu vas y passer. Il faut que tu te rendes à Rome. » Il y a une raison d'être. Il ne peut rien se passer entre maintenant et Rome. Parce que j'ai un plan pour toi. Prends courage. Souvent, Dieu va dire ça au gars. Hein? Prends courage, fortifie-toi. Je suis avec toi. Prends courage. Regarde, vas-y, fonce. Prends courage. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas peur. Ça veut dire, confronte tes peurs. Confronte tes peurs. Ensuite, une autre raison pourquoi le chrétien peut être courageux, peut avoir courage, c'est qu'il n'y a rien qui peut le séparer de l'amour de Dieu. Quand on a vu tantôt que c'est facile d'avoir accès à Dieu, de demander à Dieu, pourquoi c'est facile? Il nous aime. Il nous aime. Et c'est facile de douter de l'amour de Dieu, surtout quand on réalise nos propres manquements. On peut se dire, veux-tu me dire comment est-ce qu'il peut m'aimer? Mais il nous aime. Et Romains 8 va dire, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Et Paul va citer toute une liste de choses en disant, il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Face au fait que Dieu est avec nous, face au fait qu'il y a un plan pour nous, face au fait que lui-même nous aime et qu'il veut répondre à nos prières, comme va dire Jésus, qu'est-ce que tu veux qu'il nous fasse peur? Comment? Ça va nous faire peur, mais comment veux-tu ne pas avoir du courage? Une quatrième raison pourquoi est-ce que le chrétien peut avoir du courage, c'est parce que Dieu lui-même le fortifie. Dans Ésaïe 12, 2, « Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. » C'est un passage extraordinaire. Ésaïe 41:10, ne crains rien car je suis avec toi. Encore une fois, Dieu est avec nous. Dieu se tenait auprès de Paul et dit, fortifie-toi, prends courage, j'ai un plan pour toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Le courage, là, il puise pas sa force en moi, en nous. C'est pour ça qu'on peut avoir courage. Il puise sa force sur le fait que c'est Dieu qui est pour nous, qui peut être contre nous. C'est là que ça prend sa force. Vous comprenez? C'est pour ça que la nouvelle année, avec toutes ces malaises, avec toutes ces tribulations, avec toutes les craintes, les angoisses qu'on peut faire face à la nouvelle année, on peut être courageux malgré ça dans la nouvelle année. Malgré ça dans la nouvelle année. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire devant la peur? Bien, il faut se rappeler notre position. Se rappeler qui nous sommes. Parce que, oubliez pas, en tant que chrétien, là, jusqu'à présent, j'ai lu beaucoup de passages de l'Ancien Testament. Il y avait le passage dans les Actes parce que Jésus était, que le Seigneur est venu à côté de Paul pour le fortifier dans la détresse. Mais on se rappelle de notre position que c'est pas seulement Dieu qui est avec nous, c'est pas seulement Emmanuel. C'est qu'en devenant chrétien, en plaçant notre confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle, on a été placé en Jésus-Christ. On est devenu une seule et même plante avec lui. Il faut se rappeler notre position. Il faut se rappeler qui nous sommes. Faut se rappeler justement que c'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné dans 2 Timothée 1:7, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un esprit de force, d'amour, de sagesse. Et ça, devant toutes les difficultés qu'on peut faire face, hein, la force, l'amour et la sagesse. On va en avoir besoin. Mais c'est ce genre d'esprit-là qui nous habite. On a été placé en Christ et maintenant ça nous habite, ce genre d'esprit-là, 2 Timothée 1:7. Ensuite, une chose qu'on doit apprendre à faire, avec tout ce qu'on a dit, avec tout ce qu'on a mentionné ce matin, une chose qu'il faut apprendre à faire, il faut confronter nos peurs. Il faut la mettre en perspective, cette peur. Ça veut dire quoi? Mais je l'ai dit la semaine passée, l'exemple que j'ai donné, qu'on était dans le coin, ceux qui étaient ici la semaine passée, des fois on est dans le coin d'un mur, puis on a beau se tourner la tête à droite ou à gauche, tout ce qu'on voit c'est le mur. Ça prend une ampleur démesurée. C'est sûr que si le lion il est là, puis que j'ai ma face dans sa gueule, il y a forte chance que je pense que c'est fini. Mais si je prends un recul. Évidemment, si l'élan est là, c'est difficile. Hein? Mais dans les situations plus normales de la vie, on peut prendre un recul puis mettre les choses en perspective. OK. Quand on prend un recul, on se distance, on se dissocie, on prend un pas de recul dans la situation en disant, OK, prends un temps de recul là, puis considère la situation, qu'est-ce qu'elle est. Considère que Dieu est pour toi. Considère qu'est-ce que tu vas te dire de la situation? Je l'ai dit tantôt, hein, c'est la perception, c'est ce que tu te dis, c'est l'imagination que tu as de ce qui te confronte qui va te donner la trouille. Et plus tu vas te crisper par rapport à ça, plus tu vas être fermé par rapport à ça, plus tu vas avoir peur, plus tu vas avoir mal. Si tu relâches, si tu te relaxes en disant, « Hey Dieu, pour moi, qu'est-ce qui peut m'arriver? » Puis pire qui m'est arrivé, c'est que je me retrouve dans sa peine. Car sa bonté vaut mieux que la vie. Exactement. Et donc, il faut confronter nos peurs, il faut les embrasser en disant, « Hey, ça ne peut pas me faire peur. » Combien de fois, un petit enfant, ça me fait penser à ça un petit peu, quand on a eu de la visite chez Jean-Sébastien cette semaine, il y a une petite fille qui était là, et il y avait Domino, qui n'est pas un lion menaçant de la main. Mais et la petite fille était là. Hein? Puis il y avait le chien de Kayla, Bailey, qui est encore moins menaçant. Et puis là, la petite fille était comme, tu sais, mais qu'est-ce qui s'est passé, vous pensez, quand la petite fille faisait ça? Le chien sautait dessus. Hein? Quand on était, Julie et moi, on était rentrés dans l'enclos d'un loup. À Sacré-Cœur, c'était une bête, une magnifique bête, un loup extraordinaire. C'est gros un loup, là, mais c'était super. Et puis, deux situations intéressantes qui se sont produites. La première situation, c'est que Julie, qui est de toute sa hauteur, ben, t'as le loup qui est debout plus haut qu'elle. Il était énorme, le loup, là, mais il était magnifique. Fait que là, Julie, à faire pied comme ça. Tu sais, on était dans la neige, il y a de la neige, puis elle a circulé, puis elle, comme la neige a défoncé sur son pied arrière, elle a perdu pied. Le loup, là, lui, là, tout ce qu'il a vu, la viande, qui est à veille de tomber à terre, puis qui a comme un geste de frayeur. Il s'est levé sur elle, automatique. Quand Julie s'est... Oui, oui, la face était vraiment... Et puis, quand Julie s'est redressée, parce qu'elle n'avait pas peur de l'animal, là, tout de suite, le loup s'est retassé. Il s'est rebaissé, puis c'était correct. L'autre situation cocasse avec cet animal-là, vous savez, moi, j'ai un chien. Hein? Puis je joue avec les chiens, j'aime jouer avec les chiens. Puis une des choses que j'ai appris à faire avec mon petit labrador, qui est par ailleurs très timoré, très, très peureuse, c'est quand tu joues avec, puis qu'elle a une corne en bouche, si vous voulez apprendre à faire grogner un chien, là, c'est pas compliqué, vous prenez un chien, vous prenez une corne. Les chiens aiment toujours ça, grogner, tirer la corne. Là. Ben, vous tirez la corne de l'animal, vous cachez ses yeux, il va grogner. C'est quasiment certain. C'est comme la... un réflexe de l'animal. Même Popoun qui nounoune au bout puis qui a comme si c'était un monstre, là, mais c'est à peur de son grognement. Mais moi, le bel imbécile, j'ai un loup. Il va peser 200 livres. Et puis, fait que là, j'y cache les yeux, tu sais. Ça grogne aussi. Le grognement est un peu plus impressionnant que celui de mon chien. J'ai dit, pauvre imbécile. En faisant la main, j'ai réalisé qu'est-ce que je faisais. J'ai dit, bon, oui, puis là, j'ai joué un petit peu avec. Il a grogné pas longtemps. Il a grogné, tu sais. Heureusement qu'il est comme vraiment doux, celui-là. Mais, et là, j'ai eu un peu la trouille, mais tu lui as pas montré. Tu sais, tu veux pas lui montrer que tu as peur parce que là, c'est quand même un prédateur, tu sais. Assez impressionnant. Mais, tout ça pour vous dire, cette grande. Grand détour, merci. Un grand détour pour vous dire que les peurs, là, quand on les confronte, c'est là qu'elles sont moins dangereuses. Elles prennent moins l'ampleur. Elles diminuent. Puis dans ta tête, l'ampleur que tu vas accorder à la peur. Parce que ta peur, là, on va tous se représenter les événements de la vie d'une façon ou d'une autre dans notre tête. C'est l'imagination qui va donner de l'ampleur à ta peur ou pas. Puis si tu es capable de diminuer si prendre un recul puis diminuer la taille de la peur dans ta tête, réaliser que Dieu est plus grand que ta peur, te rappeler la parole de Dieu puis lui donner de dire, écoute, non, confesse la parole, confesse que Dieu, rappelle-toi que Dieu est plus grand que ta peur va prendre la place qu'elle a besoin d'avoir dans ta tête. C'est une discipline. Elle va avoir la place qu'elle a besoin d'avoir dans ta tête. Prends du recul. Mets-la en perspective. Confronte ta peur. Mets-la en perspective. Prends du recul. Confronte ta peur. Puis dis-toi non un instant. Dieu est plus grand que ça. Rappelle-toi les promesses de Dieu à ton époque. Rappelle-toi. Et donc, il faut apprendre à censurer ce qu'on dit. Ce que l'on se dit. Notre dialogue intérieur. Il faut se censurer. Parce qu'à un moment donné, là, ce que tu vas te dire, là, tu vas te croire. Dis-toi là assez souvent, tu vas te croire. Vous savez, des fois, il y en a qui parlent de l'inconscient, la force de l'inconscient. C'est vrai que l'inconscient est assez puissant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a qui disent, écoute, fais des confessions positives. Là. Dis-toi, t'es beau, puis ton inconscient, dis ça à ton inconscient, là. Ben, écoute, dis que c'est ça. C'est réglé. Pas besoin de l'agir. Non. Va vers le futur. Ouais. Confesse ce que Dieu dit. La délivrance va venir. Confesse ce que Dieu délivre. Dieu a délivré. Dieu est là. Ça ne dépend pas de ta confession. Ça dépend de sa promesse. Tu n'es pas responsable de faire agir Dieu. Dieu est responsable d'honorer sa parole. Alors, quand on, devant une situation, le manque de courage témoigne de l'infidélité de Dieu. Est-ce que vous voulez, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Devant une situation, mon manque de courage dans une situation témoigne par mon comportement aux autres que Dieu est pas fidèle. Je suis en train de déclarer que Dieu est pas fidèle. Parce que dans mon action, j'agis comme si Dieu n'était pas fidèle. Est-ce que ça fait du sens? C'est pas pour nous mettre un fardeau, mais c'est pour rappeler l'importance de ce qu'on se dit. Quand tu dis dans ta tête, puis des fois, c'est même pas les autres qui vont le voir, mais quand tu dis dans ta tête, quand tu témoignes ça dans ta tête, quand tu, ton dialogue intérieur, c'est de dire, écoute, ça marchera pas. Je vais y passer. Dieu n'est pas fidèle. Tu es en train de te croire. Tu es en train de te témoigner, de te dire à toi que Dieu ne sera pas fidèle et qu'il n'agira pas. Demandez Dieu. Dieu nous traite. Dieu est fidèle. Hein? Mais à un moment donné, si tu agis comme si Dieu n'agit pas, ben Dieu va dire, OK, il n'y a pas de problème, vas-y, mon cher. T'es libre. Agis comme tu penses. Un enfant qui dit, non, je suis capable, j'y vais. OK. C'est sûr que s'il va se pitcher en bas d'un précipice, il va l'attraper. Hein? Mais sinon, écoute, le meilleur apprentissage dans la vie, des fois, c'est se péter la gueule. Puis Dieu, des fois, va dire, fais-toi la gueule, la prochaine fois, tu vas venir me voir. Il devrait être la première ressource à laquelle on va aller, par la prière. Dieu. Le premier à qui on parle, le premier à qui on crie, le premier à qui on fait appel, le premier à qui on demande de l'aide, ça devrait être Dieu tout le temps. Parce que lui, il veut agir. Puis pas seulement qu'il veut, il peut agir. Puis il va agir dans la situation. Peut-être pas comme on pense, peut-être pas comme on veut, mais c'est sûr qu'il va agir. Mais demandons-lui de l'aide. L'apôtre va dire, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas, vous demandez mal. Demandez de l'aide. Demandez, criez à l'Éternel. Colossiens 3, 2, pensez aux choses qui sont en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Où tu passes ton, où tu mets ta concentration, où tu mets ton attention. Sur quoi tu te focuses, sur quoi tu te focalises. C'est-tu sur les situations ou sur le Dieu qui est au-dessus des situations? Où tu mets? Et ça nous appartient. C'est notre responsabilité de focaliser sur les vraies choses, sur les bonnes choses. 2 Corinthiens 10, 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça veut dire que Dieu nous a donné la capacité d'amener nos pensées captives à l'obéissance de Christ. S'il dit là, dans la parole, c'est parce que je peux le faire. Par sa puissance, évidemment, qui agit fortement en nous. On n'est pas orphelin. Mais s'il nous dit qu'on peut le faire, on peut le faire. Amener toute pensée captive à l'obéissance. Puis, la timidité, la peur, c'est une désobéissance. Pas la peur. Le manque de courage, c'est une désobéissance. La peur, c'est un sentiment ordinaire. Mais quand je ne fais pas face à mes peurs, c'est une désobéissance. Parce que, on va recommencer. Si tu dois aller dans une direction puis que c'est effrayant, puis que Dieu dit va dans la direction, mais tu y vas pas à cause de la peur, là c'est une désobéissance. Tu peux prendre l'autre chemin, mais prends l'autre chemin. C'est ça que je vous disais. C'est ça que je disais un instant. Tu n'es pas obligé de faire face à la peur si c'est un autre moyen de. Si tu peux le contourner, si tu vois le médecin, tu prends les moyens qui sont nécessaires pour pas faire face à la menace si tu es capable. Mais si la menace, elle est là puis elle est inévitable, succombe pas à la frayeur. Pétrifie pas. Parce que là, c'est une désobéissance. Est-ce que vous comprenez la balance que j'essaie de faire? Y a-t-il des questions? Non? OK. Pour terminer, Proverbe 23:7, je sais qu'on l'utilise souvent dans ce genre de situation-là, mais car il est comme les pensées de son âme. Notre dialogue intérieur, ça n'aura pas un grand impact sur ce qui est autour de nous, Mais par exemple, le dialogue intérieur a un grand impact sur comment moi je fais face à ce qui est autour de moi. Ce que je me dis, ce que je médite. C'est pour ça que la parole de Dieu, tu sais, dans Josué 1:8, là, hein, que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit et tu auras du succès dans ce que tu entreprends. Vraiment, la parole est proche. Je la médite jour et nuit. Ça veut dire que je la repense jour et nuit. Ça veut dire qu'elle est l'objet de mes pensées. Un petit peu comme Paul va dire dans Philippiens, hein, que tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, tout ce qui est bon soit l'objet de vos pensées. Ce que tu médites va avoir un impact sur toi. Si tu médites la peur, si tu médites la terreur, si tu médites la convoitise, si tu médites ce qui est contre la parole de Dieu, ça va produire des fruits dans ta vie. Ça, c'est sûr. C'est sûr que ça va produire des fruits dans ta vie. On l'avait fait l'autre fois, le mercredi soir, quand je vous avais raconté une petite histoire, là, ceux qui m'avaient écouté, avec le citron. Vous vous souvenez de ça? Si je vous parle d'un citron, vous prenez un citron. Là. Imaginez-vous que j'ai un citron dans ma main. Là. Et là, vous avez un citron dans votre main, puis là, prenez un couteau, coupez-le. Une bonne tranche de citron. Prenez la tranche. Mordez la. Imaginez-vous ça, là. Qu'est-ce qui vient de se passer? Vos glandes salivaires ont agi, hein? Alors, écoutez, l'imagination a agi sur les glandes. Quelqu'un comme moi, là, et ça, c'est pas des farces, là, c'est avéré. Là. Quelqu'un comme moi qui a un problème de résistance à l'insuline, qui est placé devant une pâtisserie, un gâteau, il n'a même pas besoin de manger, prendre une bouchée de gâteau pour avoir une réponse insuline. Il y a l'insuline qui est produite juste à voir le gâteau, juste à le sentir. Une réponse insuline. Ce qu'on se dit, puis même. S'il y a une description qui est faite, si vous lisez un livre, il va avoir une réponse à cela. Ça a une réponse sur nos glandes. L'impact de l'imagination, quand je vous dis que la perception a un impact, l'impact de notre imagination sur carrément nos propres glandes, les glandes exocrines comme les glandes salivaires, ou endocrines comme le pancréas pour une réponse à l'insuline, c'est fou. Pourquoi vous pensez que Dieu nous demande tellement de méditer ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui est saint, ce qui est digne d'information? Parce que l'objet de nos pensées, ça a un effet sur notre physiologie, sur notre corps, ça a même un effet sur comment les autres sont. J'ai souvent parlé de Pygmalion ici. Vous vous souvenez de Pygmalion? Il y avait dans les années 40, il y avait un exercice qui avait été fait dans, vraiment poétique, là. Mais il y avait des professeurs, il y avait un groupe d'élèves qui leur avait été mis dans leur classe et au professeur, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait interchangé les bulletins de notes. Alors, le meilleur de la classe lui avait donné le bulletin du cancre et puis du cancre, il avait donné le bulletin du meilleur de la classe. Et à la fin de l'année, presque toutes les notes avaient été interchangées. C'est-à-dire que le meilleur était devenu le juste par la perception de l'enseignant sur l'élève. Comment l'enseignant perçoit l'élève. Ça va influencer comment l'élève est. C'est fou, là. Il faut réaliser que notre imagination, nos pensées, ça a un effet sur nous, ça a un certain effet sur les autres autour de nous. Mais c'est pas pour rien que Dieu dit, médite. Alors, dans la nouvelle année, si on veut prendre la nouvelle année avec courage, si on veut entrevoir la nouvelle année et les défis qui sont là et tout ce qui est devant nous, avec courage et assurance, il faut commencer à se parler, à réaliser que Dieu est avec nous, à réaliser qu'il nous fortifie, à réaliser qu'il prend soin de nous, à réaliser que hein, tout ce que je vous ai dit ce matin, là, toutes ces choses-là, là, c'est vrai, c'est pas de n'importe quoi. Et si je médite là-dessus, si je repasse ça dans mes pensées, ça va avoir un effet sur moi, ça va avoir un effet sur les autres autour de moi. Amen. Que Dieu bénisse mon nom.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.